majeur.
Vsat majeur.
Yasmine Chouaki.
C'est un immigré avec une carte d'identité française et ça court les rues de la métropole, chère petite madame, croyez-moi. Sauf que, il y a dans la vie de Franck Salin, journaliste romancier, autant de métro parisien que de cocotier nain, autant de zouk vacances que de suprême MTM. Seulement voilà, malgré sa carte d'identité française, son droit de vote et sa taxe d'habitation, Franck Salin ne se sent pas autre chose qu'un Guadeloupéen habité par l'histoire de la traite des Africains, de l'esclavage et de la colonisation. Enfin, peut-être que j'ai trop lu son pointe-à-pitre paru, roman paru chez L'Harmattan. Je ne sais pas, il nous lira et il nous dira.
Méfie-toi des gens que tu ne connais pas. Même s'ils sont antillais comme toi-même, ça ne veut rien dire. La France n'est pas la Guadeloupe, et puis pour ne pas avoir de désagréments, il ne faut pas aller les chercher là où ils sont terrés. Tu entends ce que je te dis, hein? Bon. Si encore on te dit moins comme ça, c'est la pointe Basté ou t'es café en TP, inquiétez-moi. Mais à présent, c'est Moula qui a fait plus souvent la pointe Paris qui la pointe Basté. Alors va en paix, mon enfant.
Bonjour Franck Salin.
Bonjour.
C'est délicieux de vous entendre parler créole. J'espère qu'on aura l'occasion à nouveau. Alors il y a dans ce petit passage que vous venez de nous lire une phrase qui peut paraître absolument banale, mais qui est assez giflante finalement, je trouve. C'est quand vous dites « la France, c'est pas la Guadeloupe ».
Oui, parce que en Guadeloupe, on a une citoyenneté un peu douloureuse et compliquée. Nous sommes français depuis 1848, l'abolition de l'esclavage. Hein, c'est les colonies françaises sont les premières à avoir donné la citoyenneté aux anciens esclaves. Mais pourtant, depuis tout ce temps, depuis 160 ans, on a du mal à se sentir français à part entière. Et comme dirait Aimé Césaire, on a plutôt l'impression d'être français entièrement à part.
Donc en étant français d'origine guadeloupéenne, à l'arrivée, ça donne franchement une double culture.
Oui, oui, complètement. On a une langue différente, une histoire qui est celle de France, mais conflictuelle, extrêmement conflictuelle, puisque je vous dis, c'est l'histoire de l'esclavage, de la traite, de la colonisation. Et évidemment, on se sent différent, pas seulement parce qu'on a une couleur de peau, une texture de cheveux différent, mais parce que l'histoire, la culture sont autres.
Donc double culture et multiples casquettes pour vous, Franck Salin, je l'ai dit, donc romancier, dramaturge, journaliste et rédacteur en chef d'Afrique.com sur internet, sa mission très rapidement.
Afrique.com, c'est un quotidien panafricain en ligne, mais sa mission c'est de faire remonter l'information, dire ce qu'il se passe, quelle est l'actualité au quotidien sur le continent africain et dans sa diaspora.
On y reviendra. J'ai regardé sur votre site le proverbe du jour, c'est « qui va où on l'aime, marche en rien ». Un proverbe éthiopien, donc vous avez bien fait de venir à RFI. On a des questions pleines d'accent dans notre chapeau, et puis des musiques choisies par vos petites mains. On va commencer par la Martiniquaise Jocelyne Béroard, chanteuse de Cassav, première chanteuse antillaise à obtenir un disque d'or en France, il fallait peut-être le rappeler. Elle représente quoi pour vous, Guadeloupéen?
Ben, Jocelyne Béroard, c'est vraiment un symbole, comme tous les musiciens de Cassav. Hein. Je me rappelle quand on était petit et on s'asseyait le samedi devant les émissions de Michel Drucker. Et c'est vrai qu'on voyait passer toutes sortes d'artistes, mais jamais des artistes antillais, si ce n'est quelquefois la compagnie créole. Et Cassav, pour nous, ça a été vraiment, vraiment une grande fierté, parce qu'il jouait une musique qui nous représentait, qui nous parlait, qui parlait notre langue. Et quand Jocelyne Béroard a eu ce disque d'or, mais Cassav en a eu vraiment plusieurs, on a été très très fiers parce que c'était, il représentait notre culture dignement.
Donc on l'écoute dans un titre qui est Mi Chemwen, c'est ça?
Mi Chemwen.
Qui veut dire?
Voici mon cœur, une chanson de Patrick Saint-Éloi.
Caché en fond, yeux et monter, je sais, c'est mon pâté qui serait longtemps. Mais des bras l'amour, saisis-moi. Caresse-moi toujours, caravagez-moi. Mais gardez pas bas chez moi, c'est là qu'il n'y plus de gars. L'osage ou quatre ans qu'il y fait, moi.
Jocelyne Béroard sur RFI avec Mitch et Moins. Je prends des cours de créole ce matin, en accéléré sous la houlette de Franck Salin, journaliste romancier né il y a 35 ans à Bordeaux, donc en France, de parents guadeloupéens, et voilà qui corse peut-être dans sa tête la question de l'identité. Donc on est là pour s'interroger en sol majeur.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Avec une petite gorgée d'eau, qu'est-ce que vous savez de vos ancêtres, Franck Salin ? Grande question.
Une grande question. Il y a quelques années encore, je n'en savais pas grand-chose. Je savais qu'il y avait eu la déportation d'Afrique, l'esclavage, le métissage sur les plantations de café, de canne à sucre, l'abolition, la départementalisation. Je connaissais les grandes étapes de l'histoire, mais les ancêtres eux-mêmes, leurs connaissances intimes, je les connaissais peu. Et en fait, suite à une démarche amenée avec des amis dans une association, j'ai été voir, je me suis dit, tiens, j'irai voir mes grands-parents, mes grands-mères, mes grandes-tantes, et puis on va en discuter. Et il s'avère qu'elles m'ont raconté un peu tout ce qu'elles savaient.
Qu'est-ce qu'elle vous a raconté, votre grand-mère maternelle qui s'appelle Violette ?
Ma grand-mère maternelle, elle avait plutôt la mémoire de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Et la marque qu'elle a gardée, c'est vraiment l'histoire de sa grand-mère, sa tante qui l'a élevée, puisque malheureusement ses parents sont morts très tôt. Et donc une vie assez difficile, une enfance assez difficile, sans moyens, au baïf, mais une grande joie de vivre.
Et donc ensuite, avec des orientations un peu sociales différentes, hein, selon les cas, pour tous ces descendants d'esclaves, est-ce que cette génération-là se positionne différemment, selon vous, par rapport à la question du blanc, à la question de la place du noir en France ?
Non, ces générations-là, je pense qu'elles nous ont transmis les mêmes positionnements, hein, et les mêmes questionnements. Et aujourd'hui, on doit essayer d'y travailler. Il y a un rapport au blanc qui est difficile, parce que le blanc symbolise l'ancien maître esclavagiste. Je parle du blanc, ce qu'on appelle le blanc pays ou béqué en Martinique. Et un rapport aussi au blanc qui vient de France, assez particulier aussi.
C'est-à-dire
qu'il représente d'un côté l'extérieur, l'image du gouverneur, celui qui écoute les nègres face au blanc pays, au maître d'habitation. C'est aussi un citoyen comme nous, mais quelque part un étranger. Donc tous ces rapports au blanc sont extrêmement compliqués. La question la plus difficile à gérer, c'est celle, je dirais, de la rancœur, de la rancune, qu'on essaie de dépasser, parce que souvent dans les moments de tension, on se rappelle le passé et il faut se dire à chaque fois que voilà, on a tourné la page, en tout cas il faut tourner la page et il ne faut pas forcément reprocher à ceux d'aujourd'hui ce qui s'est passé hier.
Un mot sur Violette, j'aime beaucoup son prénom et cette image de grand-mère qui vous a marqué, qui peut-être n'était pas dans la rancœur, elle était peut-être dans la fascination, notamment pour la langue française.
Oui, ma grand-mère maternelle, c'est en partie elle, hein, qui m'a transmis l'amour des lettres. Comme je le disais, bon, elle n'a pas eu son bac, elle n'a pas pu faire d'études, mais je pense que si elle était née à une autre époque, dans une famille un peu plus aisée, elle aurait été très loin.
Parce qu'elle n'est pas l'essentiel, c'est une amoureuse des lettres qui vous a transmis des tirades entières de Molière, Franck Salin.
Elle nous disait Corneille, Racine, Molière, elle avait toujours des piles de livres qu'elle allait chercher à la bibliothèque de Basse-Terre et elle aimait aussi la langue créole, donc on avait droit à quelquefois de bons mots en créole, quelquefois de bons mots en français, elle alternait les deux.
Quand on vous demande d'où vous êtes, que répondez-vous ?
Je réponds que je suis guadeloupéen. Alors souvent, à l'étranger, on me dit « mais encore ».
Vous ne dites pas que vous êtes français, donc.
Je dis que je suis guadeloupéen. On me dit « mais encore ». Alors là, j'explique, je dis « la Guadeloupe, c'est, voilà, c'est dans la Caraïbe, c'est une île française ». Alors quand je dis française, on me dit « ah bon, c'est curieux, dans la Caraïbe française, expliquez-nous ça ». Et donc là, je dois expliquer l'histoire. Mais les gens sont très surpris, hein, quand je dis que je suis français, que j'ai grandi en Guadeloupe et que je suis français. français.
En même temps, vous vous êtes défini assez tôt comme un intellectuel antillais. Pourquoi pas français ?
Mais antillais, jusqu'à preuve du contraire, Guadeloupe et Martiniquais, nous sommes français.
Hein, oui, mais nous sommes, on nous fait sommes... la nuance, là on est sur une pente un peu linguistiquement, sémantiquement un peu ambiguë.
Oui, parce que ambiguïté il y a, et cette ambiguïté existe des deux côtés. Mm-hmm. Et chez nous, et chez les Antillais qui, comme je le disais au tout début de l'émission, avons du mal hein, à assumer cette citoyenneté, à nous impliquer dans la vie publique française, et de l'autre côté, par le regard qu'on nous renvoie. Donc,
mais c'est lié aussi, pardon de vous couper, à un vécu. Vous êtes né en France, mais vous avez vécu à Basse-Terre jusqu'à l'âge de 17 ans. Quand vous débarquez en France, vous ne vous sentez pas du tout français. Ce que vous ressentez, je vais vous citer, c'est que la France c'est l'Europe et que la Guadeloupe c'est l'Afrique.
Ça c'est une citation du livre, je crois.
Absolument, je vous ai lu, hein. Oui, Pointe-à-Pitre, Paris. Et alors pour continuer à vous citer, vous dites que l'Afrique et l'Europe sont mêlées chez vous comme farine et cendre. Donc comment démêler farine, la farine des cendres?
Justement, on ne peut pas les démêler. L'Afrique et l'Europe sont mêlées chez nous comme farine et cendre. Et justement, ça crée une identité nouvelle. Une identité nouvelle qu'il faut assumer et porter. Mais le travail qu'il y a à faire en France, c'est justement d'accepter ces identités différentes. C'est à cette condition que nous nous sentirons un peu plus français ici.
C'est votre vœu ?
Oui, c'est mon vœu, mais c'est un vœu valable pour tous les enfants d'immigrés, je pense.
On va se rendre au Mali. Franck Salin, le Mali de Salif Keita, qui est issu d'une famille de princes, et pourtant il a fait le chanteur, ce qui n'était pas bien vu dans sa famille de princes. Pourquoi vous vouliez entendre Salif Keita ?
Je suis un fan absolu de musique mandingue, et Salif Keita, c'est vraiment l'un de leurs plus dignes représentants. Sa musique me touche beaucoup, et puis ce morceau en particulier,
Nous pas bouger,
c'est parce que il raconte un peu le combat des immigrés africains pour le respect en France. Ils veulent vivre ici dignement, le mieux possible, et je soutiens ce combat complètement.
Qui est dans le poste avec nous, pas bouger, et vous surtout pas bouger, sur le canapé dans Sol Majeur aujourd'hui, le journaliste romancier Franck Salin, un Français d'origine. La phrase pourrait s'arrêter là finalement, non ?
Oui.
Hein ? Mais elle ne va pas s'arrêter là, puisque pour vous soumettre à la question suivante, Français d'origine guadeloupéenne, c'est pas mal.
Si vous deviez choisir un chapitre de l'histoire de France qui vous touche particulièrement, ce serait lequel?
Le chapitre qui me touche tout particulièrement, oh là là, vous l'aurez deviné sans peine.
Bah allez-y quand même.
Vous l'aurez deviné sans peine, c'est celui de l'abolition de l'esclavage.
Mm-hmm.
Vraiment pour moi, c'est une date que je commémore chaque année. Je tâche aussi d'honorer la mémoire de celles et de ceux qui ont été esclaves. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc c'est vraiment 1848. Pour moi, il y a eu une abolition avant, mais malheureusement, les troupes de Napoléon Bonaparte ont rétabli l'esclavage en 1802. En Guadeloupe, ils ont essayé à Saint-Domingue, Haïti. Mais pour les Guadeloupéens, la vraie abolition, c'est 1848.
Donc vous connaissez bien sûr cette histoire sur le bout des doigts. Vous connaissez, vous êtes plongé, j'imagine, dans le code noir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui choisissent le terme d'holocauste noir pour parler de l'esclavage?
Non, ça n'a pas été un holocauste. Ça n'a pas été un holocauste puisque les esclavagistes voulaient et les négriers, les esclavagistes, leur objectif c'était de faire vivre justement ces esclaves pour qu'ils produisent. Et ce n'était pas de les massacrer ou de les tuer, puisque la traite et l'esclavage ce sont des business et les négriers, les maîtres sont des hommes d'affaires. Donc un homme d'affaires, son objectif n'est pas de massacrer sa marchandise, puisque les esclaves étaient considérés comme de la marchandise. Donc c'est un crime contre l'humanité, mm-hmm. Mais ce n'est pas un holocauste, bien qu'il y ait eu beaucoup de morts. Hein, mais les morts étaient liées à la pénibilité des peines et à quelquefois les conditions de transport des esclaves.
En même temps, vous choisissez donc forcément cette histoire, cette page sombre de l'histoire de France. Vous auriez pu choisir autre chose, Clovis, Louis XIV, Charlemagne, qui font aussi partie de votre histoire de Française, que vous êtes de fait.
Oui, bien sûr, mais
est-ce
là...
Est-ce que vous êtes indépendantiste dans l'âme?
Dans l'âme, c'est une idée que je ne défends pas au quotidien, mais je pense que c'est dans le cours naturel des peuples d'être un jour indépendant. Mais nous avons choisi d'autres voies, hein, dans les départements d'outre-mer. Ce sont nos élus qui l'ont choisi en 1946, parce que en restant département, on pouvait vivre mieux, plus confortablement.
On s'arrête là.
Ça a été un choix.
On reprend la conversation dans quelques secondes, toujours en sol majeur.